bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Innovation and Prospective Talk. Nous revenons cette fois sur le BIG, l'événement de la semaine qu'il ne fallait pas rater, enfin celui de la semaine dernière, parce que sinon, au moment où on l'enregistre naturellement, c'est encore la semaine du BIG, mais on diffuse tous les mardis, généralement vers 14h. Bienvenue sur Innovation and Prospective Talk, ici on débriefe de l'ensemble des salons de la tech, des grandes tendances qu'il ne fallait pas rater. Abonnez-vous Apple Podcast, Deezer ou encore Spotify. Et donc, vous l'aurez compris, le thème du jour, le BIG. Bonjour Lionel.
Bonjour Mathieu, bonjour à toutes, bonjour à tous. Le BIG, BPI, France Inno Generation, ou Génération, parce que là, on met des accents, on est vraiment en France. Et c'est la 11e édition, et c'est toujours, pour les plus anciens d'entre vous, au Palais Omnisports de Paris-Bercy ou à la Corotel Arena. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est une journée dense, intense, plein d'expos, enfin plein d'exposants, plein de speakers, plein de thèmes, et on va essayer de les passer en revue et de vous dire ce que l'on a pu noter. Ça, c'est vraiment pas mal. Quel thème on a abordé? Quels sont les thèmes? En plus, toi, tu y étais, hein. Alors, on reviendra sur ta table ronde, hein. Tu y étais.
Exactement. J'ai eu la chance d'y participer. Alors, en tant que visiteur et en tant que acteur, en tout cas, sur une table ronde, comme tu le disais, mais c'était un vrai show. J'ai eu la chance d'arriver juste avant l'ouverture. Et donc, juste avant que la foule ne rentre et la tribune s'est remplie, et c'est vrai qu'il y a des gerbes de flammes, etc. Enfin, c'était vraiment, on fêtait quelque part les régions, les startups, avec la capacité aussi de financement. Il y avait quand même, finalement, dans l'angle général du premier discours qui a pu être fait, une notion de vérité. En tout cas, le thème était celui de la vérité. Alors, d'ailleurs, le président de la BPI l'a rappelé, hein, Nicolas Dufour, ils avaient choisi ça préalablement au fait que Donald Trump soit réélu président. Et donc, on voit bien que les problématiques de vérité ont perpétué. Il l'avait choisi avant. Il a affirmé d'ailleurs, hein, que la vérité, c'est celle à la fois de la science, celle des faits qui sont bruts. Et finalement, c'est une boussole quand on est dans une forme de brouillard, à comprendre cette incertitude à laquelle nous sommes confrontés, à la fois dans la tech, dans l'innovation, mais aussi plus largement dans les différents conflits géopolitiques.
Et oui, il faut toujours faire la différence entre les faits, et c'est ce que dit, comme tu l'as répété, Nicolas Dufour, et les opinions. Et aujourd'hui, on est envahi grâce aux réseaux sociaux d'opinions évidemment complètement divergentes qui nous saoulent et qui finissent par nous entraîner vers quelque chose qui deviendrait une pseudo-vérité. Et la liaison avec Trump et tout ce qui a été dit était tout à fait étonnante. Moi, j'ai remarqué, parce que évidemment, j'y étais, mais dans d'autres situations, dans une autre configuration, parce que j'avais des étudiants qui étaient là-bas et qui évidemment avaient été voir des startups, mais avaient été aussi assistés à des conférences. Et donc, ce qui les avait impressionnés, c'est l'arrivée du YouTuber Inoxtag et d'un seul coup, la grande scène se remplit, tout le monde se met comme si c'était un concert pop, et puis sans transition, pam, je me souviens plus du nom de celui qui est passé après lui, hop, la salle se vide et se retourne dans les mini-conférences et dans les ateliers. Voilà, c'est vraiment la vie c'est la vie de cet espace qui est fait de nombreux petits espaces, d'espaces moyens et de très grands espaces et qui vivent, qui respirent tout au long de la journée. C'est tout à fait passionnant.
Et oui, beaucoup de conférences, beaucoup de participants, plus de 1000 intervenants, plus de 500 conférences qui ont été menées, et donc le BIG 2025 finalement a offert en une seule journée un concentré, alors d'inspiration bien sûr, de perspective, de networking, avec, ils l'ont évalué, environ un peu moins de 40 000 mises en relation directement venant de leur application et de leur écosystème. Et donc c'est vraiment quelque chose qui est un événement à ne pas rater. Certains diront oui, mais c'est très étatique, il y a beaucoup de... Mais oui, mais c'est la représentation en même temps de ce qu'est l'écosystème en France, et Dieu sait qu'il est riche, il y avait beaucoup d'entrepreneurs. Franchement, c'était une très très bonne journée, extrêmement dense et malheureusement trop court. Alors, on aimerait toujours que ça dure un petit peu plus, mais bon, c'est aussi le choix de le faire sur une journée qui permet de densifier tous ces éléments. Alors il y avait un thème central, Lionel, le thème cher à notre cœur, celui que l'on revoit sur tous les salons, qui n'est plus une surprise maintenant, c'était l'intelligence artificielle.
Oui, l'intelligence artificielle. Et alors évidemment, parce que vous savez que on a un président, Emmanuel Macron, qui est très proche de la tech, de la Startup Nation, etc. Eh bien, il était présent au BIG, mais en vidéo. Et en vidéo, eh bien, évidemment, il a salué l'énergie des startups françaises qui étaient présentes et il a réaffirmé l'ambition nationale, parce que c'est vrai que BPI France, c'est la banque publique d'investissement, hein, le P, c'est public, c'est toutes les différentes infrastructures qui avaient été créées avant d'être regroupées pour avoir cette organisation qui est extrêmement puissante et qui a beaucoup de succès. Parce qu'elle est dirigée, je crois, un peu comme une entreprise, et donc elle s'adresse aux entreprises. Et donc Macron a dit, bah, écoutez, BPI France, derrière BPI France, on va investir dans l'intelligence artificielle 10 milliards d'euros d'ici 2029. Enfin, d'ici 2029. Bon, alors c'est vrai que quand on parle des investissements ou des levées de fonds des OpenAI aux États-Unis, on est très très loin. Mais nous, comme on a un écosystème qui est extrêmement domestique, eh bien, ça reste à la taille de notre écosystème. On n'est que 60 millions d'habitants. Malgré tout, donc il faut voir aussi avec notre taille, mais ça n'empêche pas que notre taille nous permet d'avoir des acteurs qui étaient présents et qui ont pu nous parler notamment des grandes tendances marquantes. Donc c'est l'IA générative bien sûr, mais l'IA générative dans la création de contenu, dans le chatbot, et donc ses impacts dans les modèles d'affaires, puisque là on est quand même dans un salon, enfin dans un événement qui regroupe des entrepreneurs, des investisseurs, ceux qui imaginent notre avenir, nos services et nos biens que l'on pourra consommer dans quelques mois, dans quelques années ou dans quelques dizaines d'années. Donc l'IA comme un levier de la compétitivité des entreprises, ça a été soulevé, c'était très intéressant. Et puis dans les grands intervenants qu'on a pu voir et noter, parce que moi j'ai pris quelques notes, on avait Florent Douéto de Dataiku qui évidemment illustre bien la success story d'une startup qui est devenue leader des plateformes d'IA pour l'entreprise, c'est-à-dire le produit qui va être sous-jacent pour aller booster une entreprise. Alors c'est pas un hyperscaler, mais c'est un scaler déjà. Hein, voilà. On avait aussi la directrice du cluster La Prairie. Alors La Prairie, j'avais pris les notes. Hein. C'est Paris Artificial Intelligence Research Institute. Comme ça, j'avais pris des notes.
Quand on ne prend pas ses notes correctement, Lionel, il faut assumer.
Et donc, elle était là pour apporter justement un éclairage sur toute la recherche en intelligence artificielle et la collaboration public-privé, parce qu'encore une fois, en France, le public est puissant et le privé également. Donc, ces collaborations sont pertinentes. Et puis, bien sûr, on avait nos champions de Mistral AI qui étaient représentés, de Dust qui étaient représentés, et tout ce mouvement qui nous apporte la transformation numérique chère à tes conférences et à tes activités au quotidien, Mathieu, par l'intelligence artificielle. C'est vraiment en marche, c'est vraiment quelque chose qui augmente, qui croise, puisque le chiffre a été donné, les PME françaises utilisent l'intelligence artificielle et cette utilisation est passée en 2023 de 15% des PME françaises à 31% en 2024. 2025 n'est pas terminé. Si on est sur cette croissance, on peut imaginer qu'à la fin de cette année, plus de 50% des PME utiliseront l'intelligence artificielle pour intégrer le quotidien de l'entreprise et donc certains services comme service marketing, etc. Mais c'est pas notre job aujourd'hui d'aller décrypter ces usages. Par contre, on a parlé de transition écologique aussi, parce que l'innovation, oui, mais la durabilité aussi. Le BIG en a parlé. Qu'est-ce que tu as pu observer, toi, dans ce domaine de la transition écologique?
Eh bien, beaucoup de choses. En fait, c'était un peu central. Alors, ça a surtout reflété le sentiment d'urgence climatique et des opportunités que l'on pouvait avoir à travailler sur le développement durable. Beaucoup d'entreprises, notamment, se sont positionnées sur cette thématique, tout en y associant le fait d'assumer, de faire du business et de proposer des solutions autour de la transition. Alors, il y a eu beaucoup de conférences sur ce sujet qui ont été présentées. On a parlé de mobilité durable, d'énergie propre, d'économie circulaire, de décarbonation de l'industrie, qui était quand même un fil conducteur à beaucoup de prises de parole. Et notamment, BPI France, qui est quand même qualifiée de banque du climat aujourd'hui, c'est-à-dire au service aussi de la planète, a finalement profité de l'événement pour faire aussi un point d'étape sur l'ensemble des actions et rendre compte des près de 7 milliards d'euros qui ont été déployés en 2024 autour de cette thématique pour accompagner cette transition et soutenir les efforts de plus de 4300 entreprises environ. Moi, j'essaie de prendre des notes également. Donc, naturellement, c'est un effort financier qui est important, alors qui s'est caractérisé de plein de manières. les prêts verts, les fonds d'investissement accompagnés via notamment l'initiative Coq Vert. Et puis, l'idée, c'est d'atteindre finalement l'objectif qui était d'avoir 20 000 entreprises en transition, entre guillemets, d'ici 2028. Ils sont pour l'instant les starting blocks. Et là, il y avait plusieurs thématiques ou sous-thématiques qui se dégageaient. La première, c'est un vrai pilier décarbonation et énergie. Donc là, c'est notamment les interventions qu'ont pu faire le président du MEDEF, Patrick Martin, qui a notamment insisté sur que toutes les PME devaient s'approprier les outils de cette efficacité énergétique et du bilan carbone. C'est aussi tous les virages verts dont a pu parler Christa Boris d'Eramet, qui a abordé les problématiques de sécurisation responsable des métaux critiques pour les batteries, qui était quand même un sujet de fond. On parle pas de mobilité durable pour la mobilité à proprement parler. On en parle sous cet angle, notamment de l'énergie décarbonée. Et puis, OP Mobility, Plasticonium était présent. Alors, on les voit au CES, on les voit Vivatech, on les voit au Big, et notamment pour illustrer comment la filière automobile, cette fois, investit. Alors, ils ont parlé notamment de l'hydrogène, mais aussi des véhicules électriques pour avoir cette mobilité plus propre. Et puis, je pourrais aussi te parler de toutes les startups green tech qui étaient présentes. Et là, on a énormément de sujets. Tiamat, qui était présent, qui va développer des batteries sodium-ion sans lithium. Hein, on en avait déjà parlé, je crois, dans un débrief. Les sujets de Plastic Odyssey, notamment, qui sont portés par Simon Bernard et qui, là, sont intéressants aujourd'hui puisque c'est ce navire que l'on connaît. C'est le navire laboratoire qui fait le tour du monde pour recycler les déchets plastiques en carburant et qui incarne, finalement, une nouvelle manière d'innover avec un impact environnemental et social différents. Voilà. Et donc, il y avait aussi Sifudia, donc Pure Océan. Voilà, tous ces sujets qui étaient présents au CES. Lapsus révélateur. au Big. Et ça, c'est un petit Eureka Park hein, quand même. Au Big et qui était quand même voilà assez passionnant. Voilà, plein de rencontres. Mais on voit vraiment que le mouvement, il est assez clair. La transition écologique, c'est plus optionnel. On le sait tous. Il y a un sentiment d'urgence. On le sait. Mais c'est surtout un levier de compétitivité et d'innovation à l'échelle mondiale. Ensuite, c'est très bien d'avoir toutes ces initiatives, mais on réglera pas non plus le problème à l'échelle globale tant qu'on n'ira pas chercher ce qui génère la grande majorité des effets indirects à ce réchauffement et à ce dérèglement.
Ah oui, tu regardes du côté des États-Unis ou du côté de la Chine peut-être.
Je regarde à droite et à gauche.
Voilà, à droite et à gauche.
Du planisphère ancienne génération, on va dire.
Non, c'est vrai qu'on est petit, hein, on est petit, même si nous on fait beaucoup d'efforts et que parfois on a aussi des efforts qui sont entachés de notre consommation personnelle qui est issue justement de pays qui sont d'Extrême-Orient. Et donc forcément avec des impacts carbone, même si eux aussi travaillent beaucoup hein, sur la décarbonation.
Notamment sur la désalinisation, l'eau, tous ces sujets, bien sûr. Il a été question de deep tech également, d'industrie ou plutôt de réindustrialisation. Autre sujet fort, Lionel, de cette édition du Big.
Bien sûr, parce qu'encore une fois, on est là au cœur de l'innovation qui touche les entreprises et ces entreprises, l'industrie 4.0, cette deep tech, toutes ces technologies profondes qui vont pouvoir demain fabriquer notre industrie du futur ou nos outils du futur, eh bien, c'était le sujet. Et on peut pas parler deep tech sans oublier la réindustrialisation parce que c'est au cœur de la réindustrialisation. On va pas réindustrialiser avec des usines d'avant. On va réindustrialiser avec des usines de demain. Et donc, les usines de demain, elles s'appuient sur des nouvelles technologies avec des technologies profondes. Deep tech, hein. Traduction mal à propos, mais bon. Donc, il y avait quand même pas mal de conférences là-dessus, justement, sur comment la réindustrialisation, c'était un véritable enjeu d'avenir, avec des objectifs très clairs hein, fixés par le gouvernement, avec 100 nouvelles usines par an en France. Et ça, c'est l'idée du plan issu de France 2030. Ça a été réintroduit et réévoqué, avec un plan start-up, un plan PME industriel. Alors, les innovations de rupture, on en a parlé. On a parlé dans un secteur que tu connais bien, puisque ils exposaient, je crois, sur ton stand à Vivatech, notamment Pasquale, le quantum computing. Le quantum computing avec des sociétés comme Alice et Bob et Candela qui sont les champions du quantique et qui sont soutenus évidemment par BPI France qui sont en train de franchir un certain nombre de paliers important. L'exploration spatiale également avait tenu une place également symbolique dans l'édition. Donc c'était assez intéressant. On a pu aussi parler biotechnologie. Alors biotechnologie avec la présence des scientifiques entrepreneurs comme Nicolas Manel, qui est chercheur à l'Inserm et cofondateur de Stimunity. Et puis on a continué à parler de souveraineté économique. Alors souveraineté économique, notamment avec les interventions d'Olivier Sichel de la Caisse des dépôts, parce que encore une fois, la réindustrialisation, c'est aussi des besoins en capitaux, en fonds, et donc il faut développer de la souveraineté économique, il faut avoir une souveraineté totale dans notamment des maîtrises des technologies stratégiques et des deep tech stratégiques, l'IA, le quantique, le spatial, le nucléaire, la cybersécurité. Voilà des sujets qui ont été évoqués pour pouvoir formater l'usine de demain, parce que la réindustrialisation, c'est l'usine de demain, c'est pas les anciennes filatures du Nord qui vont arriver de nouveau en France. Elles sont restées, elles resteront à l'extérieur, elles sont parties pour longtemps et à jamais pour beaucoup. On a vu les interventions de dirigeants importants comme le président de Naval Group ou Jérôme Suller-Descoings qui ont partagé leur démarche pour la numérisation, l'automatisation et la décarbonation de leur processus industriel. Donc au BIG, on avait toute cette présentation de l'industrie, cette industrie qui n'est plus l'image d'Épinal que l'on s'en fait avec des murs en briques et des cheminées qui fument, mais une industrie qui est truffée de technologie, et c'est cette haute technologie nourrie par, on va dire, les écoles d'ingénieurs français, et qui vont permettre, avec le soutien des collaborations publiques privées et de BPI France, d'aller plus loin et de passer probablement le cap des 2030-2050, avoir une vraie réindustrialisation. On se rappelle que la France est passée de 20% de part industrielle dans son PIB à 10%. Donc on est quand même loin de nos camarades allemands qui sont eux restés à 20%, et je crois nos camarades italiens qui sont plutôt autour de 17-18. Donc on est un peu à la traîne. Mais on parlait aussi autre chose, hein, au BIG, et quelque chose que tu adores, parce que à chaque fois qu'on en parle, de la santé et de tout ce qui est autour de l'innovation médicale.
Oui, alors d'ailleurs, ils étaient réunis autour des communautés des acteurs de filières, hein, qui sont portés par la BPI, qui s'appelle donc French Care. Alors, il y a plusieurs French trucs, hein, donc là, il y a French Care. Et sur le sujet, c'était notamment les innovations médicales avec des piliers intéressants. Celui autour de la biotech et de la medtech. Donc là, notamment, alors il y avait Stimunity, qui est spécialisé notamment dans les biotechnologies, qui développe des vaccins en immunothérapie anti-cancer. Donc là, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y avait à la fois les tueurs lents qui étaient abordés, le suivi des pathologies classiques, alors je dirais diabète, apnée du sommeil, tous ces hypertensions, etc. Mais là, il y avait quand même des deep tech assez profondes, sur deep tech assez profondes. C'est intéressant, ça, comme terminologie. Et donc, effectivement, travaillent sur ces sujets de nouvelles capacités à soigner des pathologies lourdes. Et c'est vrai que le cancer a beaucoup été présent, en tout cas dans les réflexions ou dans quelques échanges qu'on a pu avoir autour de la santé. On l'a cité plus haut, mais dans la santé, on ne peut pas faire sans les données. C'est là que DataIQ notamment a présenté des exemples assez intéressants d'analyse de données cliniques, notamment pour mieux optimiser l'actionnabilité de la donnée dans le parcours de soins ou dans l'identification des différentes pathologies. Voilà des sujets qui sont passionnants et qui démontrent que data et IA, de toute façon, sont transverses, mais notamment sur ces sujets qui sont assez marqués, notamment sur le cancer ou la détection beaucoup plus prédictive ou proactive des différentes pathologies auxquelles on pourrait être confronté. À noter aussi que Laura Chobard, qui est la directrice générale de Polytech, a présenté notamment aussi la formation de ce qu'elle a appelé des talents en bio-ingénierie et en IA, démontrant bien qu'il y a vraiment un intérêt pour l'ensemble de ces spécialités dans les plus grandes écoles également tricolores. Voilà, et puis les tendances assez classiques qu'on va retrouver, hein, c'est innover face au vieillissement de la population, mieux vivre plus longtemps, mieux chez soi, mieux piloter sa santé au quotidien, sa performance sportive, ou le fait d'avoir un rythme de vie qui soit peut-être plus sain, tout ça grâce à la donnée. Voilà, c'est globalement l'accent sur la prévention, la santé environnementale donc dans son ensemble, hein, c'est-à-dire l'impact du changement climatique sur la santé, tous ces sujets qui sont chers finalement finalement aux différents communautés métiers de la BPI. La santé était donc partout, à tous les niveaux, et c'est là qu'on voit que globalement, dans la santé, naturellement, il y a beaucoup de choses qui reviennent autour de la cité, comment est-ce que la population la soigne mieux, comment elle vit mieux aussi en ville, et tous ces sujets qui ont été abordés sous un autre topic, mobilité du futur et Smart City. J'aime pas ce mot-là, parce que je le trouve un peu vieillot, mais ça a parlé quand même ville du futur, globalement.
Oui, la ville du futur, la ville intelligente, la ville connectée avec des véhicules autonomes, plus ou moins autonomes du futur. Alors, moi, j'ai abordé cette partie parce que c'était une des thématiques. Hein. On en dresse quelques-unes, mais il y en avait encore d'autres que l'on aura forcément oubliées. Ceux qui étaient dessus nous en excuseront. La mobilité, je trouve que c'est un marronnier incroyable et que les solutions sont pas des solutions évidentes. Donc forcément, la mobilité durable, les transports du futur, ça a figuré comme étant une tendance à explorer du big. Mais oui, mais ça fait des années qu'on explore et on sait très bien que la mobilité, c'est la liberté. Et que cette liberté que chaque humain a adoptée, il veut pas la lâcher. Il a pris des habitudes. Et que ça sera toujours très difficile. On le voit comment la mairie de Paris, que l'on l'aime ou qu'on l'aime pas, essaye de faire changer les habitudes à coups de contraintes, restrictions des voies de circulation, etc. Et à chaque fois, vous avez les gens qui continuent à utiliser les outils donc de leur mobilité habituelle. Donc bien sûr, on a parlé de véhicules propres. Alors ça, pour le coup, d'accord. Sauf que ces véhicules propres et l'électrification, bah, c'est l'essor de ces véhicules qui sont hybrides. Donc, on reparle de plastique omnium, qui est un des gros OP Mobility, hein, bien sûr, qui est un des gros acteurs du monde de l'hydrogène, puisqu'il y a aussi la capacité de savoir si aujourd'hui l'électricité qui est le moteur de nos voitures électriques, elle est stockée dans des batteries ou elle est générée par un stockage énergétique qui est lié à l'hydrogène via une pile à combustion. Bon, bref. À combustible. Bref, on voit bien que là, il y a encore un problème. Donc, on parle de batterie, on parle de Gigafactory, on parle de nouveaux types de batteries. Tu en faisais référence tout à l'heure. Mais aussi, on parle, et là, c'est là où on arrive sur le marronnier, on parle de la mobilité urbaine, d'où le lien avec la Smart City et les nouvelles offres. Alors, on parle de Inetum qui vient et qui évoque une solution numérique pour essayer de fluidifier les déplacements urbains. Alors, moi, je dis bien essayer de fluidifier parce qu'encore une fois, la réticence de l'utilisateur est très importante. Moi, je covoiture de temps en temps parce que je prends aussi ma voiture le matin. Merci, elle est électrique. Mais malgré tout, changer les modes de déplacement et les fluidifier, c'est compliqué. Il y avait aussi la présence d'hôteliers comme les hôtels Oco via son DG qui apporte un témoignage sur l'évolution du tourisme et comment le tourisme voit autrement sa mobilité dans la ville, comment il voit autrement ses voyages, comment il se déplace, comment on peut partager des mobilités. Alors on nous reparle de trottinettes nouvelle génération, on nous reparle de vélo cargo. Alors ça, pour tous ceux qui circulent dans Paris, parce que le pays, c'est la France, mais le big il est à Paris, donc on voit bien qu'on a des acteurs locaux qui sont présents. C'est bien les vélos cargo, mais on voit qu'on commence à avoir des embouteillages de vélos parce que les vélos sont de plus en plus massifs. Bientôt ils auront 4 roues et on appellera ça des voitures.
Donc, mais
on n'en est pas très loin quand on voit certains dispositifs cargo.
En plus, ils sont électriques, ils roulent à 30 km/h.
Ouais, puis ils ont 3 enfants derrière. Enfin bon, c'est génial.
5 sacs devant. Mais l'avantage, c'est que si Uber Eats vient à fermer, ils sont tous prêts. Hein. On les a tous à domicile.
Ah oui, ils sont tous prêts. Mais moi, j'en ai même vu avec des petites boules d'attelage, avec des petites boules d'attelage pour mettre une remorque. On n'est pas loin. Hein. Ou alors, j'ai vu une innovation, je sais plus dans quel salon. C'était la caravane pour vélo. Donc c'est la caravane très étroite et quand on s'arrête, elle se déplie. Et comme ça, on peut dormir dedans. Mais c'est aller derrière un vélo et elle fait la largeur d'un vélo, un peu plus large qu'un vélo. Voilà. Bref. Donc, une tendance générale à l'innovation dans un écosystème des transports qui doit être plus vert, qui se veut plus intelligent, avec une mobilité qui sera peut-être plus connectée, plus partagée, avec moins d'émissions. Mais voilà, j'ai toujours l'impression que c'est un peu le marronnier parce qu'on voit bien les freins qu'on a à l'utilisation. Hein. Toi, tu as un véhicule, je crois, qui est hybride, qui est rechargeable, un véhicule électrique, entre autres. Et on voit bien que c'est pas la solution miracle. Et on sait que cette liberté, elle commence à être contrainte par des solutions qui ne sont pas aussi polyvalentes que les solutions précédentes, bien qu'elles soient plus faibles en émissions au quotidien, pas forcément à la construction et au recyclage. Eh bien, ça donne parfois des solutions qui sont un peu bancales. On verra. En tout cas, c'était intéressant d'en parler. Mais ce qui était plus étonnant, et moi j'aimerais te relancer là-dessus parce que tu en as fait la remarque, c'était de voir aussi comment on a parlé des industries culturelles, des industries de la création, des industries qui sont chères à notre société quand même, qui est une société de la culture, la société française.
Totalement. Alors quelque part c'était un mini après-midi au South by Southwest made in Le Big, donc avec cette dimension culturelle assez forte. Notamment ces industries à travers le monde. Et il y a eu beaucoup d'interventions, notamment sur ce rapprochement de médias, de divertissement, de culture française à l'ère des plateformes, et notamment des plateformes de streaming comme TikTok, Twitch ou autres. Et la production télévisuelle venue d'ailleurs sur la big scène, hein, donc là c'était vraiment qui ont illustré comment un créateur de contenu et un influenceur peuvent modifier sensiblement une forme d'économie actuelle relativement standardisée. Et en fait, ils apportent un regard neuf sur l'entrepreneuriat et la façon aussi d'entreprendre différemment. Donc, ça a été assez intéressant de voir ce rapprochement culturel, cette ouverture vers de nouvelles capacités de production et d'industrialisation aussi d'un nouvel écosystème métier, quelque chose qui était assez intéressant. Plusieurs piliers, bien sûr, on a parlé de mode, de luxe made in France avec la CEO de Jacquemus, Sarah Benadi, qui était présente, qui a partagé notamment comment sa maison de mode née d'un créateur influent sur Instagram a pu bâtir une marque à dimension international en disruptant tous les codes du luxe qu'on avait pu préalablement connaître. Et donc Lionel, il a naturellement été question, big oblige, de BPI, qui dit BPI dit financement, de la manière dont cet écosystème d'innovation tricolore se finance et évolue.
Et oui, parce que le financement, c'est en filigrane de tous ces thèmes. C'est BIC, c'est BPI. BPI, c'est le financement derrière les entrepreneurs, derrière les nouveaux entrepreneurs. Je vais pas forcément parler des 40 000 participants que tu évoquais tout à l'heure, qui ont été cités et qui sont venus là pour aussi créer des collaborations, créer des ponts et créer justement de la dynamique autour de la collaboration et du financement de leurs innovations. Je voudrais te relancer, tu m'as relancé, mais en fait je renvoie en passing shot tout de suite la balle sur la table ronde à laquelle tu as participé, parce qu'on est au cœur de ce système. Cette table ronde, son thème, c'était start-up, grand groupe. Quelle est la relation de confiance que l'on peut établir et quelle est la relation durable que l'on peut établir? Parce qu'évidemment, les startups sont là pour innover, elles sont là pour mettre leurs cellules grises dans la balance, et puis les grands groupes peuvent apparaître aussi comme des requins qui viennent, comme des vautours peut-être autrement, qui viennent prendre leur poids, les intégrer, et puis finalement plutôt tuer l'innovation initiale pour l'intégrer. Donc est-ce qu'il y a des relations de confiance? C'est la vérité, est-ce que c'était la vérité vraie qui était sur cette table ronde? Raconte-nous un peu ce qui s'y est passé entre les...
Il y a des questions quand tu me poses la question. Donc, je vais déjà. Alors, souvent, cette image, d'ailleurs, je pense qu'en tant que. Je rebonds. En tant que start-up, si j'aurais plus à me méfier potentiellement d'une start-up qui a réussi sur un créneau similaire et qui pourrait m'absorber que d'un grand groupe qui pourrait me mettre le grappin dessus, entre guillemets. Il y a deux types de grands groupes qu'il faut distinguer, ou plutôt deux typologies de start-up ou de moments dans la start-up qui va avoir une relation avec un grand groupe. Le premier, c'est une start-up qui aurait potentiellement une offre de service intéressante. Et qui serait amené à redéfinir la façon dont le e-learning pourrait être propulsé en interne, et donc vendre quelque chose avec une offre de valeur à proprement carré, du delivery, un modèle d'engagement et donc une prestation de service. Là, effectivement, c'est assez classique. C'est une relation commerciale, ni plus ni moins, entre un prestataire et un grand groupe. Après, il y a les grands groupes qui, notamment comme celui auquel j'appartiens, qui lui travaillent plus en complémentarité, en intégration technologique de ce que va faire une start-up au bénéfice d'un client que nous aurions potentiellement en commun. Et là, c'est une relation dans laquelle un intégrateur technologique prend le risque, le pèse et l'assume avec un modèle d'engagement Y, pour assurer justement l'intégration d'une start-up dans le delivery d'une prestation. Et là, c'est pas du tout les mêmes relations. Alors bien sûr, notamment une des panélistes parlait souvent que les NDA étaient souvent en défaveur des startups, etc. Mais encore une fois, c'est à quel niveau on attribue, à quel niveau on adresse la relation startup-grand groupe. Quand on est effectivement dans une volonté d'une startup de travailler ou de collaborer avec un département bien spécifique d'un grand groupe sur un sujet vraiment vraiment précis, souvent ça remonte pas dans toutes les organisations ou les équipes qui s'occupent de créer des NDA très spécifiques, alignés, etc. Donc, quand on va vouloir faire signer un NDA, souvent, une startup, et je prends le NDA parce que c'est un exemple assez marquant, bah, ça va prendre plus de temps déjà en interne dans un grand groupe que dans une startup, en premier temps. Le temps n'est pas le même entre les entités. Et puis, bien sûr, quand c'est un NDA générique qu'on va mettre à la disponibilité de 40 ou 50 000 collaborateurs, il est forcément sécurisant pour le grand groupe. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas une relation générique startup-grand groupe, il y a des relations au nombre de startups qui travaillent avec des grandes organisations. Les inerties sont régulières et vont en cohérence totale avec les grands groupes, parce qu'il faut qu'on s'aligne à plein de niveaux pour être sûr qu'on couvre bien tous les sujets de relations. Et les startups, effectivement, bah, faut qu'elles puissent être aptes à recevoir ces inerties, à comprendre qu'il y a des temps très actifs, des temps qui sont très longs, des temps très actifs, et que c'est cyclique, mais c'est propre à cette relation. Mais le dénominateur commun d'une bonne relation start-up grand groupe, là je vous résume une heure de table ronde en deux minutes, mais c'est de se dire, un, est-ce qu'on a envie de travailler ensemble avec les personnes? Est-ce qu'il y a un intérêt technologique à se rapprocher? Et est-ce qu'on se fait confiance dans les phases les plus embryonnaires du projet? Plus on commence tôt dans l'early stage de la startup, et plus on va être en mesure de se connaître, d'avoir de l'intimité, de connaître véritablement les offres du grand groupe pour que la startup s'y intègre dedans. Et naturellement, qu'on puisse construire pas à pas une collaboration basée sur la preuve, basée sur les faits, et qu'il n'y ait aucun non-dit dans les relations entre les personnes qui vont collaborer. Parce que naturellement, c'est de là que va partir la plupart du temps les sujets dès qu'il va y avoir des dérives. Donc, c'est pas le problème du what, c'est le problème du who, encore une fois, c'est qui porte le sujet, comment on le porte, est-ce qu'on n'a pas effectivement de non-dit et on avance pas à pas. Voilà, c'est le gros, globalement ce qu'il faut retenir de cette intervention, dont on vous mettra le lien dans la description de l'épisode vidéo pour ceux qui voudront le voir. Ça a duré 45 minutes, une heure, mais c'était absolument passionnant et intéressant de passer en mode speaker sur le big.
Petite précision lexicale, NDA, c'est l'accord de confidentialité. Hein.
Oui, totalement. Voilà.
Voilà, parce que comme tu l'as dit quatre fois, NDA.
Pour le signer, voilà. Dans un grand groupe. Voilà à peu près ce qu'il faut retenir. Est-ce qu'on s'est tout dit, Lionel? C'était dense. On a quand même pris quelques notes. On a travaillé sérieusement.
Je crois qu'on a essayé de travailler sérieusement parce que tous les intervenants qui étaient là étaient porteurs de messages qui étaient extrêmement positifs. C'est vrai que les situations économiques parfois, ou les situations politiques, voire géopolitiques proches de chez nous ou un peu plus loin, sont parfois assez stressantes ou assez inquiétantes. Là, c'est sûr qu'on était au cœur d'un écosystème optimiste. Alors, c'est vrai qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est par nature optimiste, qui s'engage, qui apprend de ses erreurs, qui avance, qui trouve des solutions et qui évite de se trouver des excuses, comme disait un écrivain célèbre. Eh bien, là, on était au cœur de l'optimisme. Bon, même si on peut dire que 10 milliards, ça fait beaucoup, surtout quand on doit faire, paraît-il, des économies. Et que
une année de salaire, quand même. Hein.
Voilà, qu'à l'échelle nationale, c'est pas beaucoup. Et que oui, pour nous, ça ne représente qu'une année de salaire. Le dis pas trop fort, parce que je crois qu'en ce moment, on cherche les supra-riches.
Zuckman.
Non, mais on vous rassure, on n'est pas dans les 1800 là, qui sont visés par monsieur Zuckman et ses camarades. Mais j'ai entendu dire que dans les 1800, il y en avait 10 qui étaient vraiment très, très, très visés, puisqu'ils ont représenté la moitié. Donc, vous imaginez que dans 1800 foyers qui sont pas beaucoup, beaucoup, 0,001%, il y en a quand même 10 qui représentent la moitié de ce que les 1790 autres possèdent.
Couplé à l'équation du modèle mathématique de la population française et l'hypercroissance de la démographie, ça donne quelque chose
ouais,
de sympa.
Voilà.
Ça roule.
Bienvenue.
Et ben, si on s'est tout dit, on vous remercie encore une fois de nous suivre, de partager la bonne parole et de vivre tous ces événements au travers d'Innovation and Prospective Talk. On vous rappelle Apple Podcasts, Deezer ou encore Spotify pour vous abonner. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures et on vous souhaite une bonne semaine. Allez, à très vite. Salut Lionel.